Merci, bonjour Anne et merci. Les midi et demi sur France Culture à 12h55, ce sera la grande table d'été en deux parties, comme tous les jours, une table ronde sur le cinéma d'animation. Puis aux alentours de 13h25, hommage sera rendu au poète Yves Bonnefoy, disparu ce week-end. Mais tout de suite, c'est le journal de la rédaction. Bonjour Antoine Mercier.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. Le Parti Socialiste reporte son université d'été prévue à Nantes à la fin du mois d'août. Jean-Christophe Cambadélis invoque des risques de violence pour le député frondeur Yann Gallu. Cela montre l'état de rupture du gouvernement avec les Français. Analyse avec Frédéric Seiss dans un instant. Manuel Valls est en Corse. Le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, demande un statut pour la langue et aussi l'amnistie des prisonniers politiques. À l'instant, Manuel Valls affirme qu'il y a des lignes rouges comme la co-officialité de la langue corse et l'instauration d'un statut de résident. On verra tout cela avec Antoine Denecher. Le gouvernement français menace de ne plus appliquer la directive européenne sur les travailleurs détachés. Selon le Premier ministre, elle fait des ravages dans le monde ouvrier. Explication avec Willy Moreau. Et puis en Grande-Bretagne, Nigel Farage démissionne de la tête du parti européen anti-européen UKIP. Pendant la campagne, j'ai déclaré, a-t-il affirmé, que je voulais récupérer mon pays, mais maintenant je dis que je veux récupérer ma vie. Fin de citation, correspondance avec Franck Mathevon. L'Irak rend hommage aux plus de 200 personnes tuées hier à Bagdad par un attentat suicide du groupe État islamique, dossier suivi par Nadine Epstein, l'invité de la séquence interview, Thierry Solaire, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Le principal parti de la majorité contraint donc de reporter s'inédier une réunion publique. Le premier secrétaire du PS a annoncé le report de l'université d'été de la Belle Alliance Populaire, initialement prévue à Nantes du 26 au 28 août. Jean-Christophe Cambadélis invoque donc des risques de violence. Les appels à perturber cette université du PS et de ses alliés s'étaient multipliés ces dernières semaines, conjonction notamment de la protestation contre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et celle de la loi travail. On est dans une situation gravissime, estime Jean-Christophe Cambadélis. On l'écoute.
Je crois que nous sommes face à une situation où, en quelques semaines, les permanences des socialistes ont été attaquées. On a même tiré dessus, à l'arme, à feu. On veut interdire nos meetings. C'est une situation gravissime. Et moi, je ne prends pas la responsabilité de... détruire une ville, puisque c'était ce que proposaient ces jeunes gens. Je ne prends pas la responsabilité qu'il y ait des blessés. Évidemment que la police nationale aurait pu sécuriser la ville. Évidemment que le Parti Socialiste a le service d'ordre pour faire face. Mais moi, je ne veux pas me confronter à une guérilla d'une ultra-gauche antidémocratique qui a décidé de se faire et les forces de police et le Parti Socialiste.
Jean-Christophe Cambadélis donc sur LCI ce matin. Monsieur Cambadélis va soumettre cette décision au bureau national du PS et il soutient pour lui qu'elle est définitive. Frédéric Seiss, bonjour.
Bonjour.
Alors on va revenir d'abord sur ce que l'on sait des faits. Sur quoi s'appuie concrètement cette décision de report qui pourrait revenir finalement à une annulation pure et simple de ces universités d'été?
Alors trois critères sont mis en avant par la direction du Parti Socialiste. D'abord la sécurité des militants PS, ensuite l'intégrité de la ville de Nantes où plusieurs manifestations ont déjà dégénéré et puis enfin, le nombre de policiers que cela aurait mobilisé. On ne peut pas à la fois demander à la CGT d'annuler ces manifestations et nous maintenir notre événement au moment où les forces de l'ordre sont très sollicitées. C'est ce que nous disait ce matin l'entourage de Jean-Christophe Cambadélis. Le patron du PS a pris cette décision en concertation avec l'Élysée. Après avoir reçu des signaux d'alarme du ministère de l'Intérieur et de la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland, dans la ville, la permanence du PS est régulièrement dégradée. Rendez-vous en août était-il inscrit sur la façade. Par ailleurs, l'intersyndicale avait prévu un grand meeting contre la loi travail à quelques pas seulement de l'université d'été et du PS. Hors micro, un responsable socialiste dit craindre trois sources de désordre. D'abord les casseurs et les autonomes très présents dans les cortèges nantais contre la loi travail. Ensuite les zadistes et les opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et puis enfin, évidemment dans une moindre mesure, les opposants internes au sein du PS qui veulent se faire entendre avant la primaire de gauche. Alors Jean-Christophe Cambadélis parle pour l'instant d'un report, mais personne au PS n'était ce matin en mesure de dire quand et où pourrait avoir lieu le rassemblement. rassemblement de substitution.
Pour le député fondeur Yann Gallu, donc, l'annonce de ce report ou de la suppression même de Nantes montre l'état de rupture du gouvernement avec les Français. Chez les Républicains, Éric Ciotti ironise. Jusqu'où vont-ils aller dans le ridicule? Un parti qui ne se réunit plus n'est plus un parti. Alors il faut souligner effectivement le fait que cette annulation d'un rendez-vous traditionnel d'un parti de gouvernement est une première et c'est le signe évidemment d'un climat social et politique très dégradé.
Oui, ce report vient en fait après une longue série d'incidents. La semaine dernière, Stéphane Le Foll avait dû s'exfiltrer d'un meeting Éole à gauche à Bordeaux. Des militants répartis dans la salle huaient à chacune de ses interventions. Le service d'ordre a bien tenté quelques évacuations manu militari sans calmer la grogne. Il y a 3 jours à Montpellier, un discours de Manuel Valls a été recouvert par les sifflets. Puis avant cela, il y a moins d'un mois, le même Premier ministre avait dû mobiliser d'importantes forces de police pour protéger un meeting à Paris en faveur de la loi travail. Atmosphère très étrange ce soir-là. On a vu un quartier bouclé, des manifestants tenus loin des caméras et des micros, un service d'ordre du PS sur les dents, à l'entrée même de la salle, et à l'intérieur, des militants soigneusement choisis, ainsi que les parlementaires et les membres des cabinets ministériels appelés en renfort pour faire nombre. En 2012, parmi ses arguments de campagne, pour se distinguer Nicolas Sarkozy, François Hollande soulignait que lui pouvait se déplacer partout sans problème en France. Son parti semble aujourd'hui condamné au huis clos, à se couper du réel ou bien à le subir violemment.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. On salue notre invité Thierry Solaire. Bonjour.
Bonjour.
Député des Républicains des Hauts-de-Seine. Alors, j'ai envie de vous demander, avec un gouvernement qui se proclame de gauche, déjà nous sommes dans une situation aussi tendue que cela, est-ce que vous ne redoutez pas que si vous arrivez au pouvoir, ça soit encore plus dégradé?
Il n'y a pas de violence social légitime dans une démocratie. Et donc, par nature, de voir un parti politique renoncer à se réunir parce qu'il y a des gens qui pourraient venir perturber quelque chose qui, dans une démocratie, est absolument inacceptable. Le gouvernement est là pour faire appliquer l'ordre public. Et à Notre-Dame-des-Landes, il y a un référendum qui a été fait. Moi, j'attends l'évacuation de cette zone. Et j'attends s'il y a des gens qui viennent perturber en violation de la loi.
Donc, vous pensez que Cambadélis aurait dû dire on va maintenir, puis on va mettre des policiers autour?
Mais c'est désespérant. La vérité, c'est que à ce rythme-là, c'est la primaire de la gauche qui n'aura pas lieu. Ils vous diront, à ce moment-là, au mois de janvier prochain, ah ben non, c'est tellement terrible, vous vous rendez compte, il y a de la tension, il y a des casseurs, il y a des opposants, et donc on va quand même pas prendre le risque d'ouvrir des bureaux de vote pour permettre de choisir le candidat de la gauche. Écoutez, dans une démocratie, on ne recule pas parce qu'il y a des gens qui violent la loi. Alors après, tout ça se passe dans un contexte où il y a beaucoup de défiance dans notre pays, de la défiance interne au sein de la gauche, au sein même du Parlement, puisque les gens ont le sentiment d'avoir été trompés, et que François Hollande applique aujourd'hui un programme pour lequel il n'a pas reçu de mandat de la part des Français à l'occasion de la dernière élection présidentielle.
C'est ça l'origine du problème, vous pensez?
Ah, je le pense, bien sûr. À ce point-là de rupture entre la parole et les actes, au bout d'un moment, vous créez des tensions. Voilà, et donc, est-ce que ça serait pire à droite? Non, moi, je ne le crois pas. Je crois que les Français vont devoir, à l'occasion de la prochaine présidentielle, trancher des débats. Moi, j'attends des candidats à la primaire de la droite qui disent clairement ce qu'ils feront. Et surtout derrière, qu'ils le tiennent. Parce que quand on promet des choses et qu'on fait l'inverse, il y a de la colère.
Voilà, on reparle de la situation à droite tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry Solaire. Un mot encore du Premier ministre Manuel Valls qui effectue sa première visite en tant que Premier ministre en Corse. Après un discours devant l'Assemblée de Corse à Ajaccio, il doit se rendre dans l'après-midi à Bastia, puis au Cap Corse. Le président indépendantiste de l'Assemblée, Jean-Guy Talamoni, a de nouveau présenté les demandes des nationalistes, notamment un statut pour la langue corse et l'amnistie des prisonniers politiques. Mais Manuel Valls, lui, a dit ses lignes rouges. Antoine Denéchard, vous avez suivi pour nous ce matin cette séance.
Oui, ce sont deux mondes qui se rencontrent en ce moment à Ajaccio. D'un côté, Manuel Valls, le défenseur d'un État fort et d'une République une et indivisible. En cela, d'ailleurs, notons-le, il est plutôt l'héritier de Jean-Pierre Chevènement que de son père en politique, Michel Rocard. Puis de l'autre, les deux têtes de l'exécutif corse, les nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Ce dernier a prononcé un discours d'accueil très offensif devant Manuel Valls et plusieurs ministres. Ce matin, un discours émaillé de références au peuple corse, mais un discours prononcé en français. Vous l'avez dit, il a rappelé les délibérations de son assemblée. Il veut un statut de résident pour donner la priorité aux Corses dans l'achat de maisons et interrompre, je cite, la spéculation immobilière et la dépossession des Corses. Il veut la co-officialité des langues corses et françaises, l'amnistie pour les prisonniers politiques, la création d'une collectivité unique. Le Premier ministre vient de lui répondre d'un ton calme, par un discours d'apaisement. Manuel Valls confirme qu'il y aura bien en 2018 une collectivité unique en Corse. Il annonce aussi la création d'une agrégation de langues corses, mais Manuel Valls n'a pas fait que dire oui.
Il y a bien sûr ce qu'on appelle des lignes rouges, vous le savez. L'affirmation de l'identité corse ne passera pas par l'exclusion, la co-officialité de la langue ou le statut de résident. Vous connaissez mes prises de position qui sont celles du gouvernement de la République. Mais nous avons démontré par nos échanges et notre travail que des résultats étaient possibles. Et je veux faire plus que jamais du dialogue notre modèle pour l'avenir, et notamment pour l'avenir de la Corse.
Le Premier ministre, on l'entend, joue donc l'ouverture et le dialogue ce midi, loin des postures un peu plus martiales, par exemple, sur le débat sur la loi travail. Moi, je veux rassembler, pas exclure, et je respecte cette identité corse si forte, a-t-il dit. En cela, Valls, à l'instant, vient de se faire un peu plus l'héritier de Michel Rocard.
Antoine Denecher, merci beaucoup. Depuis le Brexit, le Premier ministre a pris par ailleurs une tonalité plus critique vis-à-vis de certains aspects de la construction européenne. Il y a une semaine, on s'en souvient, en déplacement en Normandie, Manuel Valls avait estimé que le résultat du référendum britannique permettrait de clarifier les débats, de refonder une Europe plus sociale et notamment en bannissant le dumping social et fiscal. Et il est revenu sur le sujet hier sur TF1. Il a menacé de ne plus faire appliquer cette directive européenne sur les travailleurs détachés, dont on a beaucoup parlé, un dispositif, dit-il, qui fait selon lui des ravages majeurs, terribles dans le monde des salariés, dans le monde ouvrier. Willy Moreau, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi finalement 20 ans après sa mise en œuvre, puisqu'elle date de 96, cette fameuse directive des travailleurs détachés, pourquoi est-ce que le Premier ministre trouve maintenant qu'elle est socialement insupportable?
Parce que selon Manuel Valls, cette législation qui permet à un salarié européen de travailler temporairement dans un autre pays de l'Union européenne lèse la France, car si le salaire dépend du pays d'accueil, les cotisations sociales sont celles du pays d'origine. Exemple, un ouvrier polonais travaillant en France est payé au minimum au SMIC, mais les charges patronales sont celles de la Pologne, bien moins élevées qu'en France. Conséquence, certaines entreprises françaises recherchent cette main-d'œuvre dont le coût est moins cher, et ces travailleurs sont de plus en plus nombreux, 286 000 en 2015, soit 25% de plus qu'en 2014. Ainsi, le Premier ministre juge cette concurrence déloyale et demande un alignement par le haut, vous l'avez dit, des cotisations sociales à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, la France soutient un projet législatif de la Commission européenne qui envisage d'aligner les régimes des travailleurs détachés sur ceux des travailleurs du pays d'accueil. Mais ce projet divise une nouvelle fois l'Europe, soutient des pays de l'Ouest, Allemagne, Belgique et Pays-Bas notamment. Mais à l'Est, Pologne et Hongrie en tête, ça ne passe pas. Ces pays sont les premiers à profiter de ce système du travail détaché. 11 États ont adressé un carton jaune à la Commission, entraînant le blocage du processus législatif. Si le texte ne passe pas, Manuel Valls promet donc de ne plus faire appliquer la directive.
Willy Moreau, merci beaucoup. En Grande-Bretagne, alors que la bataille pour la succession de David Cameron se durcit, le pro-Brexit Nigel Farage annonce ce matin sa démission de la tête du parti UKIP. « Mon objectif de sortir de l'Union est atteint », a-t-il dit. « J'ai accompli ma mission. Pendant la campagne, j'ai déclaré que je voulais récupérer mon pays. Et maintenant, je veux simplement récupérer ma vie. » Franck Mathevon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Comment est-ce qu'on peut interpréter cette démission? Apparemment, M. Farage ne compte pas assumer le service après-vente.
Non, mais de toute façon, y avait-il un rôle pour lui dans les négociations? C'est peu probable. Nigel Farage a toujours été snobé par l'establishment britannique et a priori, le parti conservateur n'avait pas prévu de travailler avec lui sur la sortie de l'UE. Farage estime avoir en effet rempli son objectif, celui de sa vie. Il a passé sa carrière à militer pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Il a été l'un des membres fondateurs du parti UKIP en 93. Il en a pris la tête en 2006 et en a fait l'une des forces politiques majeures du pays. Le UKIP représente aujourd'hui 10 à 15% des électeurs britanniques. Il a terminé en tête des européennes en 2014. C'est le troisième parti du Royaume-Uni derrière les conservateurs et les travaillistes. D'après Farage, le Brexit n'aurait pas eu lieu sans le UKIP. Difficile de lui donner tort, la montée de ce parti anti-UE a poussé David Cameron à organiser un référendum. Le UKIP a aussi imposé ses thèmes dans la campagne, en particulier l'immigration. Les pro-UE lui reprochent des slogans xénophobes, mais le fait est que les craintes vis-à-vis de l'immigration ont sans doute fait basculer le vote. Nigel Farage assure qu'il continuera à soutenir son parti. D'après lui, le UKIP a encore un rôle important à jouer dans les années à venir, notamment pour influer sur les négociations avec Bruxelles autour de la sortie de l'UE.
Franck Mathevon, merci, en direct de Londres. Pour ce qui est des débats donc au sein du Parti conservateur, la ministre de l'Intérieur, Theresa May, s'impose de plus en plus comme la favorite. Dans une tribune publiée par le Daily Telegraph, le ministre des Affaires étrangères, Philip Hammond, juge ce matin que celle qui est actuellement donc ministre de l'Intérieur est la mieux armée pour obtenir, je cite, le meilleur accord de sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni. Monsieur Hammond écrit que le prochain dirigeant britannique va devoir s'efforcer de garantir l'accès du Royaume-Uni au marché unique européen tout en limitant la libre circulation des personnes. Après la désignation des deux finalistes donc au poste de Premier ministre le 12 juillet par les députés conservateurs, il reviendra aux 150 000 militants conservateurs de se prononcer durant l'été avant une annonce le 9 septembre où on connaîtra donc le nom du nouveau Premier ministre. Un petit mot là-dessus peut-être, Thierry Soler, parce que nous sommes maintenant 10 jours après ce fameux Brexit et qu'on ne sait toujours pas si on a franchi quelque chose de qui allait renouveler, bousculer tout, ou au contraire que les choses allaient se remettre en place progressivement.
Oui, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, ceux qui proposaient ce Brexit, de toute évidence, ne sont pas là derrière pour assumer l'avenir du Royaume-Uni et les problèmes nouveaux que cette décision est prise.
C'est vrai pour Boris Johnson aussi, puisqu'effectivement, il est parti. Oui.
Et deuxième chose qui me frappe, c'est globalement le rapport des Britanniques à l'Europe, qui n'a jamais été le même que le nôtre, nous, les Allemands, les Anglais, les Allemands, les Français, les Italiens. Pour nous, l'Europe, c'est un projet politique, c'est un projet économique. Et pour les Britanniques de tout temps, l'Europe est avant tout un marché.
Donc c'est une bonne chose, alors, on a clarifié.
En tout cas, c'est une forme de clarification. Après, ce qui me frappe, c'est la segmentation du vote des Anglais sur ce Brexit. Ce sont les plus de 70 ans qui massivement veulent sortir. Et toute la génération des jeunes et des actifs, elle voulait rester. Et donc, au fond, c'est triste de voir que ceux qui ont poussé à la sortie se lavent les mains aujourd'hui de la suite, tout comme les électeurs qui ont souhaité cette sortie sont des gens très âgés.
Merci Thierry Soler, on vous retrouve dans une petite minute. Le reste de l'actualité à l'étranger, d'abord avec l'Irak qui rend hommage ce matin aux plus de 200 personnes tuées hier à Bagdad par un attentat suicide du groupe État islamique, attentat perpétré par un kamikaze qui a fait exploser avant l'aube une voiture piégée dans une rue bondée d'un quartier commerçant. De nombreux habitants s'y pressaient pour faire leurs courses avant la fête marquant la fin du Ramadan. C'est l'un des attentats les plus meurtriers qu'a connu le pays et qui met évidemment en lumière l'incapacité du pouvoir actuel en Irak à instaurer des mesures de sécurité efficace au moins pour prévenir ces attentats dans la capitale Bagdad. Nadine Epstein.
Carnage, quartier commerçant en ruine, Karada dévasté, décor ou ce qu'il en reste au milieu des débris et des victimes ensevelies qu'il sera long et difficile à identifier. Des familles entières détruites, au moins 200 morts et autant de blessés dont une partie risque de mourir, faute d'hôpitaux, d'installations sanitaires, de médicaments et de matériel médical. Le groupe Daesh a aveuglément et puissamment frappé la population irakienne. Bagdad est en deuil. Selon un communiqué de l'État islamique, l'objectif souhaité est atteint. Un seul kamikaze au volant de sa voiture piégée a réussi à tuer un maximum de civils. Et les spécialistes manieront tôt d'expliquer que cet attentat intervient une semaine après que les derniers membres de l'État islamique ont été chassés de Fallujah par l'armée irakienne. Les djihadistes se servaient de cette ville à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Bagdad comme base arrière pour organiser des actions meurtrières dans la capitale. Malgré ce revers militaire, Daesh montre avec l'attentat d'hier que le groupe extrémiste radical islamiste est capable d'agir de n'importe où, dispose de cellules opérationnelles en tout lieu et à tout moment. La coalition internationale a permis aux forces gouvernementales irakiennes de reprendre à l'œil une partie des territoires qu'ils contrôlaient depuis 2014, mais les mesures de sécurité établies à Bagdad restent peu efficaces. D'ailleurs, dès hier, le Premier ministre a annoncé certaines modifications des systèmes de sécurité, en particulier le retrait des détonateurs explosifs. Il a également sommé le ministre de l'Intérieur d'accélérer le déploiement des dispositifs Raspigan pour la recherche de véhicules à toutes les entrées de Bagdad et d'interdire au personnel de sécurité en service l'usage des portables.
Nadine Epstein. 12h48, retour vers notre invité Thierry Soler, grand maître de l'organisation des primaires à droite. Plusieurs candidats critiquent ce matin le projet du parti qui a été adopté samedi sous la direction de Nicolas Sarkozy. François Fillon, par exemple, se dit pas du tout engagé par ce projet et souhaite défendre son propre programme donc pour 2017. Le président de la République, dit-il, ne doit pas être l'otage des partis. Alors, cette primaire ne commence-t-elle pas à montrer quand même ses limites, puisque par définition, il s'agit de désigner un candidat, alors que, au contraire, à droite, on a plutôt l'habitude de dire il faut que ce soit un homme face au pays.
Écoutez, moi, je ne vais pas vous faire la langue de bois. Les primaires, c'est nouveau. En France, c'est nouveau complètement pour la droite. C'est la première fois qu'on en fait. La gauche s'était mise à ses primaires parce qu'il y avait eu le 21 avril 2002. Au fond, la primaire, est-ce que c'est le choix simplement d'un homme? Il y aura un projet collectif? Bien sûr que non. La primaire, c'est pas le choix de la couleur de la cravate ou de la couleur de la robe.
Donc tout ce qui a été fait là samedi, ça compte
non
pas.
Non plus. Parce que qu'est-ce que vous diriez, les observateurs, si un parti politique, les Républicains, à l'occasion, à un an de la présidentielle, ne travaillait pas au projet du parti? Maintenant, vous savez, on oppose souvent le gaullisme, l'homme providentiel, la culture de la droite à cette logique de primaire. Moi, je crois tout l'inverse. Je crois que c'est moderne et qu'au contraire, c'est assez gaullien d'organiser des primaires. Vous savez, si on ne fait pas de primaire, qui désigne le candidat? C'est le bureau politique d'un parti. Ça, c'est la politique des partis. Aujourd'hui, on va ouvrir le 20 et le 27 novembre prochain à tous ceux qui nous écoutent et qui partagent les valeurs de la droite et du centre. Le choix des candidats, ce sont des millions de Français qui vont pouvoir venir le choisir en choisissant un homme ou une femme. Et ils choisiront bien sûr derrière le projet qui va avec, sa méthode, son calendrier, sa crédibilité personnelle. Et donc je ne vois pas de contradiction à cela. On a un parti en ordre de marche, les Républicains, et on pourrait pas faire de primaire si le parti n'était pas en ordre de marche. Et moi qui n'ai pas soutenu Nicolas Sarkozy à l'élection à la présidence du parti, je lui donne crédit d'avoir remis le parti en marche. Il fonctionne.
Donc non, le parti est en marche, il fonctionne. Il y a un programme qui ne servira pas à grand chose peut-être à Sarkozy
non,
lui-même.
Non, c'est une base de discussion. Chacun
il va démissionner avant la fin du mois d'août.
C'est prévu, ça, voilà. C'est pareil.
Il va donc ensuite être candidat et ça démarre.
Et ça démarre. Les polémiques qu'il y a eu sur la démission de Nicolas Sarkozy de la présidence du parti en vue des primaires, elles n'ont pas lieu d'être. Elles ont été tranchées en amont. Si Nicolas Sarkozy est candidat à ses primaires, il doit démissionner et pas se mettre en congé, ce qu'il aurait pu faire. Il a été élu pour 3 ans, chef
du parti. Il est d'accord. Il a signé.
Donc d'accord. Il démissionnera et il doit le faire avant le 26 août et dès l'annonce de sa candidature. Donc vous voyez, écoutez, que tout ça, que les gens qui veulent chercher des polémiques ne cherchent pas à en rajouter trop. On a un parti en ordre de marche. On est maintenant à 10 mois à l'élection présidentielle. La droite doit être rassemblée avec un seul candidat. Parce que tout le monde comprend bien aujourd'hui que si nous avions 2 candidats à la présidentielle, on prendrait le risque de ne même pas être au second tour. Et le 20 novembre prochain, il y aura plus de 10 000 bureaux de vote en France. Et tous ceux qui nous écoutent, ils pourront très simplement venir choisir celle ou celui qui portera les valeurs de la droite à la présidentielle.
Antoine Denecher.
On parle d'un début de campagne en septembre pour la primaire, mais en fait, on l'a bien compris, elle a déjà commencé cette campagne. Vous avez cité Antoine Mercier, vous avez cité François Fillon, mais aussi Bruno Le Maire ce matin, qui se dit choqué par certaines des propositions du projet qui a été adopté, le projet Sarkozy qui a été adopté samedi. Nicolas Sarkozy lui-même, samedi, n'a pas été tendre avec Alain Juppé en disant, voilà, il ne faut pas être à l'extérieur avec les journalistes à discuter sur le trottoir, il faut être à l'intérieur du parti. Est-ce que ce n'est pas ça le risque, finalement, d'artificialiser un peu les différences entre les différents candidats? Parce qu'aujourd'hui, il y a 12, voire 13 candidats avec Nicolas Sarkozy déclarés à la primaire, alors que sur le fond, vous avez un socle commun.
Alors, d'abord, il n'y a pas de candidat à la primaire, il n'y en a pas 12 ou 13. Parce que
déclaré.
Pour l'instant, voilà, il y a des candidats à la candidature. Et ça serait terrible s'il y avait eu 12 candidats à la primaire de la droite, ça serait illisible. Et pour être candidat, il faut des parrainages requis qui sont très élevés. Vous verrez que sur la ligne de départ, nous en aurons 5 ou 6. Deuxièmement, est-ce que nous partageons l'essentiel? Oui, heureusement. Et d'ailleurs, j'y vois plutôt un avantage par rapport à ce qu'a été la gauche en 2012 et les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui. Parce qu'ils n'étaient d'accord sur rien. La primaire a tranché, que ce soit François Hollande. Mais résultat au Parlement, vous avez l'essentiel du groupe parlementaire, qui, ou en tout cas une partie importante, qui ne partage pas les orientations prises. Donc nous, oui, il y a un accord sur 2-3 grands sujets essentiels. Plus d'autorité de l'État, plus de liberté économique. Après, est-ce qu'on est d'accord sur tout? Non. Moi-même, je ne suis pas d'accord du tout quand le projet des Républicains dit envisager de réintroduire le cumul des mandats. J'ai voté à la loi qui restreint le cumul des mandats. Vous avez vu le Parlement, il y a souvent
pourquoi
pas
il fait
grand
ça, Nicolas Sarkozy, pourquoi il fait ça?
Parce qu'il considère que c'est une bonne chose. Et moi, je ne le considère pas et ça sera...
C'est pour séduire les députés et les parlementaires.
Probablement, mais en tout cas, ça sera aux Français de venir choisir un homme ou une femme, sa crédibilité en face et son projet dans le détail. Et après, ce qui m'importe, c'est que bien sûr, on soit rassemblé derrière celui ou celle qui gagne cette primaire. Mais surtout qu'on tienne les engagements pris devant les Français. Parce que moi, je vois, depuis une vingtaine d'années, les annonces pendant la campagne, et puis les résultats, et puis les actes pendant le gouvernement. Et ce décalage-là crée de la défiance.
Vous aviez dit 5 ou 6 candidats, donc moi j'en connais 4 qui sont à peu près sûrs. C'est qui les deux autres selon vous?
C'est pas à moi de le dire.
Vous avez dit 5 ou 6 candidats.
Je pense qu'avec le niveau de parrainage
aujourd'hui... Le maire Fillon, Sarkozy, Juppé et...
Et ce, un ou une ou deux autres personnes, Frédéric Poisson, qui est le président du Parti chrétien-démocrate, qui lui participe déjà à la primaire, donc c'est le 5e, et puis probablement un 6e peut-être.
Pas de
ça,
femme.
C'est le choix. Nathalie Kosciusko-Morizet est engagée dans cette affaire, elle cherche ses parrainages, c'est au parrain de répondre à cette question.
Dernière question,
qui viendra voter selon vous le 27 novembre à la primaire? C'est une question importante. Est-ce que ce sera selon vous le socle militant, ce qui pourrait favoriser le camp Sarkozy, ou est-ce que ce sera plus large et le socle sympathisant de la droite, voire du centre en général?
Trois chiffres. 150 000, c'est les adhérents du parti qui ont voté pour la présidence du parti il y a un an et demi. 22-23 millions, c'est le nombre de Français de droite quand on est majoritaire. Les études montrent qu'il y a près de un peu plus de 10% des Français qui se disent certains d'aller voter à la primaire. Et les études montrent que c'est une légère surreprésentation des gens qui ont fait des études, des urbains et des retraités. Après, nous verrons. Moi, ce que je souhaite, c'est que le maximum de Français se rendent compte que la droite, c'est là où elle choisit son candidat.
Soyons clairs, plus il y a de candidats, plus c'est Juppé qui est avantagé, non? Enfin, est-ce que c'est ça la règle?
Je lis cela, mais vous savez, on en lit des choses qui sont détricotées par les réalités. Je n'en sais rien. Je vous dis juste que la force qui sera donnée à notre candidat, ça dépend notamment du nombre de gens qui viendront y voter. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de Français. Quand vous leur donnez un pouvoir, ils le prennent.
Et vous allez prendre votre retraite d'organisateur des primaires maintenant?
Le 28 novembre au soir. J'espère que le résultat sera incontesté. C'est mon seul objectif. Et que donc on pourra soutenir tous le vainqueur, quel qu'il soit.
Thierry Soler, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La météo gris au nord, au sud ensoleillé, température de 21 à 34 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.